Je ne vais pas tout reprendre ce qu'on avait fait, tant pis, en début d'année, où on avait surtout avancé sur sa biographie, qui permettait de mettre en perspective des enjeux de sa pensée, quoi. Je ne vais pas revenir là-dessus, donc, parce que ça, on n'avancerait décidément pas. Simplement rappeler les dates, hein, pour que vous les ayez bien en tête. Nietzsche est né en 1844 et il meurt précisément en 1900. D'accord ? Donc, il meurt à l'aube du XXe siècle et c'est donc un homme du XIXe siècle. C'est important à dire, hein, parce que ce n'est pas un homme du XXe siècle. Alors, c'est pas parce qu'il est mort en 1900, les siècles, du point de vue anthropologique ou du point de vue du mouvement des idées, les siècles n'obéissent jamais à la chronologie arithmétique, d'accord ? On peut dire que le XXe siècle démarre en 1918. 14, mais 14, c'est la rupture, donc... Le XXe siècle démarre en 14-18, si vous voulez. Voilà. Oui, c'est la rupture. Voilà. Donc, Nietzsche est un homme du XIXe siècle. Et ça veut dire aussi, je le redis une fois pour toutes, que l'on ne peut pas rétroactivement accuser Nietzsche de nazisme. Accuser de nazisme parce que le nazisme vient au XXe siècle. Alors, on pourrait l'accuser d'antisémitisme, parce que, non mais on pourrait le légitimement, parce que l'antisémitisme par contre c'est un mouvement qui démarre, et l'antisémitisme moderne est un mouvement qui démarre et est même une invention du XIXe siècle. Si vous voulez, il y a deux, si je schématise, on ne va pas faire l'histoire de l'antisémitisme, mais il y a deux antisémitismes en Europe qui vont non pas s'annuler mais s'additionner. Il y a l'antisémitisme chrétien, religieux, qui date du Moyen-Âge, qui est l'antisémitisme lié à cette affirmation que ne partagent pas tous les chrétiens. Une tendance du christianisme qui se fait jour au Moyen-Âge, qui est un antisémitisme, on pourrait dire, métaphysique ou théologique, qui est lié à l'affirmation que le peuple juif est déicide. Déicide, ça veut dire qu'il a tué Dieu en la personne de Jésus, qu'il est responsable d'avoir fait condamner et tuer Jésus sur la croix. Voilà. Donc ça, c'est l'antisémitisme qu'on peut dire métaphysique ou religieux qui date du Moyen-Âge. Et au XIXe siècle, il y a un autre antisémitisme qui va se superposer au premier, le premier n'ayant pas été abandonné, qui est un antisémitisme peu qualifié de politique, sociopolitique, culturel, c'est-à-dire qui peut être partagé par des non-chrétiens, par des athées. C'est l'antisémitisme qui va être parallèle à la montée en puissance de l'idée de nation. L'idée de nation et de république, la république étant ce modèle d'organisation de la société qui se fonde avec la Révolution française et qui reste d'ailleurs dans les têtes aujourd'hui, et qui est rappelé par les politiques, c'est que la République est une et indivisible. Donc la notion de nation républicaine est une notion d'une société qui s'homogénéise. C'est-à-dire que d'un universel, c'est l'application d'une conception de l'universel homogène, homogénéise. On le retrouve parfaitement dans ce qu'est Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte, c'est précisément le prolongement de la Révolution française et pas la rupture avec la Révolution française. Napoléon Ier, républicain, va faire les guerres en Europe contre les monarchies qui menacent la Révolution française. Et toutes les monarchies étaient vraiment intriguaient beaucoup pour supprimer la République. Et donc Napoléon Ier est le porteur de cet idéal d'un universel homogénéisant, qui est l'idée de république. Le problème de l'idée de république pensée comme ça, d'un universel pensé comme ça, c'est que tous ceux qui échappent à cela, qui sont considérés comme hétérogènes par rapport à cet impératif d'homogénéité, on va avoir tendance à les rejeter. Et la figure par excellence qui va être rejetée de ce point de vue-là, c'est la figure du juif. Ce qui explique le malentendu, ou plutôt l'erreur des juifs allemands, qui vont être très nombreux à se laisser attraper dans le piège du nazisme et envoyer dans les camps, c'est les juifs allemands, et j'englobe les juifs polonais, parce que c'est la même histoire, qui étaient très nombreux, se sont fait majoritairement avoir. Pourquoi ? Parce que c'était des juifs complètement intégrés, et intégrés notamment par le savoir. C'est-à-dire que l'Europe a produit les plus grands intellectuels de l'époque, et c'était tous des juifs. Que l'on prenne Freud, que l'on prenne Marx, que l'on prenne Zimmel, que l'on prenne Einstein, que l'on prenne Zweig, ce sont tous les grandes figures de l'intellectualité. Et je ne parle pas dans l'art, c'est pareil, on retrouve le même phénomène. La grande figure de l'intellectualité au 19e, 20e siècle, début, c'est des figures juives. Donc, ils se pensaient complètement intégrés à la société européenne et non pas des facteurs d'hétérogénéité. Et ils n'ont pas compris. Oui. Oui. Oui, mais ça c'est un mécanisme à mes yeux qui a joué un rôle, mais qui est secondaire, qui a alimenté le fantasme, effectivement. Alors on pourrait lire ce qu'a expliqué, on pourrait lire ce que Freud a écrit sur l'argent, ce que symbolise l'argent, effectivement. Mais toujours est-il que le juif est apparu comme une figure hétérogène, et que cette figure hétérogène, il fallait la dégager par rapport à cet impératif de l'idée d'une nation homogénéisatrice. Tant que ça, pas tant que ça, en Allemagne, il y avait à la fin du 19e et au début du 20e, il y a deux types de figures juives. Il y a la bourgeoisie intellectuelle, aussi économique, qui est complètement fondue dans la société européenne. Par contre, il y a des communautés juives rurales, les shtetl, ce qu'on appelle en yiddish les shtetl. Les shtetl, c'est les communautés villageoises où il y a une prédominance de juifs. Ou pas, mais ce qui a été frappant. Oui. Et le shtetl, c'est les petites gens de la ruralité qui peuvent être, alors pas paysans, parce qu'il faut avoir des terres, qui sont surtout artisans, commerçants, voilà, surtout artisans et commerçants. Et donc ces communautés-là sont rurales et ont un mode de vie qui reste traditionnel. D'accord. Voilà, on peut faire ce distinguo-là, effectivement. Toujours est-il que cet antisémitisme n'est pas forcément basé sur le religieux, sauf peut-être davantage dans les campagnes, et je pense en Pologne, parce que la Pologne est extrêmement catholique, et la paysannerie polonaise est très catholique, et elle va être nourrie, quand même, de l'antisémitisme historique, chrétien, religieux. Voilà. J'ajouterais un dernier point. L'antisémitisme, on le retrouve dans l'intellectualité la plus haute, non économique, non juif, si vous voulez. C'est le problème de gens comme Wagner, le musicien, et tout l'entourage des Wagneriens, et notamment la femme de Wagner, qui est Cosima Wagner, qui était la fille de Liszt, de Franz Liszt. Et d'autre part, on le retrouve chez ce cas, je prends ces deux figures emblématiques, symboliques, qui est Martin, Heidegger. Alors, il ne s'agit pas de là de partir sur Heidegger, ça serait très compliqué et trop long. On est en plus handicapé par rapport à Heidegger en français parce qu'on ne dispose que de mauvaises traductions. Parce que Gallimard, les éditions Gallimard, ont acquis le monopole de ce qui est publié sur Heidegger. Et c'est un monopole qui induit une seule traduction qui a été... Donc les traducteurs officiels ont confisqué la traduction d'Heidegger. C'est Jean Beaufret et l'autre dont le nom m'échappe à l'instant, qui ont sciemment complexifié en français Heidegger, qui en font un Heidegger. C'est le même phénomène qui s'est retrouvé pour Freud. Je vous conseille de lire les travaux de ce franco-juif protestant allemand qui s'appelle George Arthur Goldschmidt, qui explique très bien ça, comment la réception en France de Freud et d'Heidegger est complètement parasitée par le fait que les traductions ont complètement compliqué à souhait la langue qui, pour un Allemand, que ce soit Heidegger ou Freud, est une langue beaucoup plus simple que pour un Français. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, pour dire que Heidegger, c'est un cas, du coup, qui est rendu très compliqué en langue française. Mais, simplement, je citais le nom d'Heidegger pour dire qu'indubitablement, Heidegger a été nazi. Indubitablement. Et sa pensée, il a été engagé dans les SA, il a été recteur de l'université de Freiburg.
Il a viré Husserl.
Et que. Alors, oui, il a viré Husserl, alors qu'il avait été. Qui était juif, et dont il avait été un disciple, un élève plutôt. Pas un disciple, un élève. Et que Heidegger se nourrit pour le coup de l'antisémitisme chrétien. Et en particulier, c'est Farias qui a mis en évidence un point très précis. Heidegger a reçu l'influence de la pensée d'un moine autrichien du XVIIe siècle qui s'appelle Abraham à Santa Clara. D'ailleurs, si vous allez à Vienne, c'est assez saisissant. Il y a une belle église au centre de Vienne où il y a la tombe, toujours honorée, d'Abraham à Santa Clara avec une plaque où son nom est gravé, ses dates, etc. On rend toujours un hommage à Abraham à Santa Clara, qui était un moine augustinien, si vous voulez, qui a eu des écrits d'une violence, des écrits théoriquement fondés, des écrits de haute spéculation théologique, qui étaient des écrits d'une virulence antisémite, où il a renouvelé l'antisémitisme médiéval, quoi. Et on sait que Heidegger a beaucoup lu, connaissait et a beaucoup lu Abraham à Santa Clara, et que ça a nourri sa pensée. Voilà. Donc c'est dire qu'à travers Heidegger, qu'on ne peut pas considérer comme un philosophe chrétien, on voit comment le christianisme, l'antisémitisme chrétien, ou je dirais plutôt l'antisémitisme métaphysique, s'est poursuivi jusqu'au XXe siècle. Or, nul doute que Heidegger a été, encore une fois, du point de vue de sa biographie, du point de vue du fait qu'Heidegger a vécu jusqu'en 70 et qu'il n'a jamais eu une seule parole et un seul écrit pour condamner le nazisme ou faire un retour sur lui, contrairement à une autre grande figure française qui est moins connue mais qui compte autant qu'Heidegger dans la pensée, qui est Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, qui a été dans sa jeunesse croix de fer, et qui était pro-nazi, mais qu'il l'a reconnu très vite, il avait 18 ans à ce moment-là, lui, et il l'a reconnu très vite, et toute sa vie, il n'a eu de cesse que de penser à partir de ses errements de départ, quoi. Et Maurice Blanchot, très tôt, s'est retourné à abandonner ça, s'est retourné et a sauvé Lévinas de la possibilité d'être dans les camps. D'où une amitié indestructible entre Blanchot et Emmanuel Lévinas. Pourquoi ? Parce que les deux se sont retrouvés à Strasbourg. Donc Strasbourg, au moment du nazisme et de la guerre, c'était pas terrible comme position géographique, quoi, hein, n'est-ce pas ? Et donc Maurice Blanchot, lui, a fait un retour critique. Heidegger, jamais.
Son interview posthume.
Il y a un repentir. On pensait qu'il y aurait un repentir qui n'existe pas. Et même la seule explication du nazisme et de l'antisémitisme chez Heidegger, en fait, il va s'intéresser, alors c'est très actuel aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des choses dangereuses aujourd'hui, au développement de l'industrie alimentaire de production de viande, de l'élevage qu'il observe aux États-Unis, au Canada, de l'élevage industriel des bœufs et des abattoirs industriels, en disant, en gros, il fait le rapport en disant, c'est la même chose que les camps d'asile, les camps des années. Il s'intéresse. C'est toute sa critique de la technologie, c'est-à-dire que Heidegger va se focaliser sur la technologie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une pensée anti-technologique, et de montrer que la technologie s'applique aux abattoirs comme elle s'est appliquée aux camps d'extermination. Voilà la seule chose qu'il va développer. Ce qui est une façon de passer à côté du problème, c'est-à-dire que le problème c'est la technologie.
C'est pas le nazisme.
C'est pas le nazisme, quoi. C'est pas l'idéologie nazie. Bien. Et l'autre chose qui joue beaucoup chez Heidegger, mais juste, je le signale pour dire qu'il faut faire attention à la façon dont on pense les choses aujourd'hui, dont on critique à juste titre l'agriculture industrielle, l'élevage industriel. À juste titre, je dis, mais attention de la façon dont on pense cette critique. Et relié à ça, la façon dont on pense le retour au terroir et au local. Fais attention à ça.
Tout à fait.
Et encore une fois, je suis pour les circuits courts. Mais attention à la façon dont on le pense. Pourquoi ? Parce que un autre fil qui relie Heidegger à l'antisémitisme et au nazisme, c'est cette notion de Heimat, c'est-à-dire la patrie, qu'on peut rattacher à un concept métaphysique qui est central chez Heidegger, qui est le Dasein. Dasein, D-A-S-E-I-N. Le Dasein, ça veut dire, et c'est traduit comme ça en français, ça veut dire l'être-là. Et le Dasein, par excellence, ça va être chez Heidegger, l'ancrage dans un sol, dans une terre. Là, l'identification à un terroir. Et d'ailleurs, que Heidegger a appliqué dans son mode de vie, parce que Heidegger vivait dans la forêt noire, et ce qu'il adorait, c'était sa houte. C'est-à-dire sa cabane.
Au Canada.
Sa cabane dans la forêt noire où il vivait, voilà. Pour lui, c'était le lieu de vie idéal, quoi. Et c'est pas propre à Heidegger. Je pense aussi à des artistes qui avaient leur houte, des artistes alémaniques, allemands qui avaient leur houte. Houte. Oui. Oui, oui. Il y a un tréma. Houte. Voilà. Juste le nazisme, j'ajoute ça, le nazisme a développé le jeunisme. Comme ce qu'on appelle aujourd'hui le jeunisme.
Ah ben oui.
Pourquoi le jeunisme? Parce que quand on est, et là je ne m'éloigne pas totalement de Nietzsche, le jeunisme, pourquoi le jeunisme? Pourquoi la célébration du jeune? Parce que c'est la célébration de la vitalité, de la vie au maximum de son intensité. Et le jeunisme a été partagé par les nazis très fortement, d'où l'importance pour les nazis de développer des camps scouts. Les jeunesses italiennes, c'était des camps scouts où il y avait une éducation en pleine nature, l'importance de la nature, de vivre dans la nature, etc. quoi. Parce que la nature, et vivre dans la nature, et les jeunes dans la nature, c'est une façon de développer ce vitalisme propre aux jeunes. Et c'est là, je fais le lien avec le problème de Nietzsche. Céline et son écriture, y compris alors, il a pu la transcender, la beauté ou la sublimer, la beauté de son écriture est liée à cette énergie du ressentiment. Quand on voit Voyage au bout de la nuit, le style qu'il invente, la syntaxe qu'il invente, sa phrase, est l'expression d'un ressentiment, d'un profond ressentiment qu'il a pu sublimer dans l'art.
Nietzsche, c'est la vie.
Voilà, donc voilà pour Heidegger. Vous voyez donc la problématique. Et Wagner, un mot sur Wagner, parce que ça concerne encore plus directement Nietzsche. Wagner vit avant la montée en puissance et au pouvoir du nazisme, clairement. C'est un homme du 19e, mais qui est un homme qui est dans cette marmite antisémite qui se construit au 19e siècle. Et Wagner, très clairement, là, il n'y a aucune contestation de nulle part, a été un antisémite notoire. Alors, c'est lié à ce que je disais avant, c'est-à-dire que l'Allemagne, la grande Allemagne, même avant le nazisme, est construite sur un retour au grand mythe fondateur. Mais on pourrait le dire de la Grèce antique, on pourrait le dire d'Athènes, etc. Athènes, c'est toute l'ambiguïté d'Athènes, est fondée, on l'avait abordé à l'époque, pour ceux qui se souviennent et qui étaient là, la question de l'autochtonie. Pour les Grecs, Athènes et le citoyen d'Athènes doit être un autochtone. Un autochtone en grec, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est né sur le même sol. C'est ça que ça veut dire, autochtone. Et on retrouve donc cette même impératif de l'autochtonie chez le nationalisme allemand, dans le nationalisme allemand pré-nazi ou nazi. Et l'autochtonie, c'est basé sur la mythologie du sol, de ce dont le sol est porteur et de l'identité commune dont il va être la matrice. Et l'identité commune de la nation allemande, c'est les grands mythes teutons, les grands mythes germains. Et c'est pas hasard si, dans ses grands opéras, Wagner se nourrit de cela. Avec toute la mythologie qu'on pourrait développer autour de ce que représente le Rhin, le fleuve, le Rhin. La mythologie allemande, son berceau, c'est le Rhin. Le lieu fondateur, le berceau, c'est le Rhin. Donc il y a ça qui, dans la pensée de Wagner, le prédisposait antisémite. L'autre chose qui joue très fort, c'est cette ambition, alors, qu'on retrouve chez, je vais en parler après, chez des figures françaises, c'est le rêve d'un art total, d'une totalité. La pensée, Wagner, son ambition, c'est que l'opéra, sa musique, l'opéra, c'est un art total. C'est-à-dire qu'il embrasse qui est une pensée totale du monde, qui est une représentation totale du monde, par la parole, par le chant, par la musique, par la théâtralisation, c'est ça. Et ça, ça a été un rêve qu'ont poursuivi beaucoup d'auteurs, d'artistes, d'écrivains à la fin du 19e siècle, d'où la fascination que Wagner a pu exercer sur certains. Et je pense notamment à une figure pour moi centrale de cela, dont on va parler un peu après, c'est Mallarmé, Stéphane Mallarmé. Que Mallarmé a été fasciné par Wagner, mais aussi qu'il y a des liens très forts, intellectuels, artistiques, entre Mallarmé et Nietzsche. On va préciser cela. Mais simplement, je termine sur les conséquences de ce rêve ou de ce fantasme d'un art total que Wagner incarnait. C'est que l'ambition d'un art total qui embrasse la totalité du monde n'est pas différent. C'est le même mouvement pris avec d'autres langages que le mouvement de l'idéologie totale. Il y a une forme de rapport, mais il y a une forme de rapport avec l'universalisme français, bien sûr. Si cette ambition qui a d'autres racines, que l'Arien ou l'Allemagne pourrait totaliser le monde, l'humanité.
Oui, c'est ça.
Et qu'il y a ceux qui échappent, et notamment les Juifs, qu'il faut éliminer, parce que c'est les grains de sable qui échappent, c'est les impuretés qui échappent, quoi. Mais fondamentalement, l'art total, c'est la même chose que l'idéologie totale. Or, l'idéologie totale, qu'elle soit issue de la gauche ou de la droite, qu'elle se traduise dans une certaine conception de la révolution communiste ou de certaines conceptions de la révolution fasciste, l'idéologie totale, ça a donné le totalitarisme. C'est-à-dire, quand on veut embrasser le monde, que ce soit dans une construction politique ou dans une représentation symbolique, c'est la même chose, encore une fois. Quand on veut embraser le monde dans une totalité cohérente et qu'on homogénise, on encourt tous les risques qui se sont réalisés au XXe siècle. Que ce soit le stalinisme, que ce soit le nazisme, le fascisme, et que ce soit la révolution culturelle chinoise, qui a un très bel exemple, si j'ose dire un bel exemple, Pol Pot et le Cambodge. Pol Pot et le Cambodge, c'est très intéressant à analyser, parce que ça part d'un mouvement qui est un mouvement généreux, fraternel, de créer une société égalitaire, une société où il n'y a pas de hiérarchie discriminante, etc., dans un petit pays. Et ça aboutit à éliminer tous ceux qui échappent, tous ceux qui ne rentrent pas dans ce qui va être cette totalité rêvée, mais fantasmée qu'on imagine, quoi. Donc, penser le monde comme une totalité, c'est une catastrophe. Penser l'universel de cette façon, c'est une catastrophe. Eh bien, bien sûr. Alors, la sœur de Nietzsche, Elisabeth, qui s'était mariée avec Foster, qui était un nazi militant, notoire. Et elle, contrairement à Nietzsche, a vécu très longtemps après Nietzsche. Voilà. Donc elle est contemporaine du nazisme, clairement. Voilà. Alors, par contre, vous voyez tous les enjeux qui se nouent à partir de Nietzsche. Ce qui fait que Nietzsche, même s'il va présenter la possibilité de ces dangers, ce qui fait qu'il échappe et qu'il s'est éloigné de Wagner, c'est l'antisémitisme de Wagner, et surtout des Wagneriens, de Cosima Wagner, et de tous ceux qui tournaient du cercle des Wagneriens, qui étaient tous des antisémites, et de ça, tous. Qu'on retrouve aujourd'hui à un degré beaucoup moindre, et pas métaphysique, qu'on retrouve aujourd'hui à un degré politique, par la réticence, voire la haine des Européens, à accueillir les 20 000 populations déplacées de Moria. C'est un mécanisme similaire qui est moins profond et moins décisif parce qu'il reste politique, idéologique, il n'est pas métaphysique. C'est la différence par rapport au rejet des Juifs qui est un fait unique parce que c'est un fait métaphysique qu'on ne retrouve pas de la même façon chez le rejet des populations déplacées. Voilà. Non, que les autres nations ont rejeté le nazisme ?
Oui.
Non, c'est pas en raison de l'humanisme, c'est en raison des nationalismes aussi. Hein, faut pas. C'est ce qui explique d'ailleurs quelque chose qu'on a du mal à comprendre, comment des grandes figures de la résistance ont pu ensuite rejoindre l'OAS et l'Algérie française. Je pense en particulier à cette figure qui est très intéressante à étudier, qu'une écrivaine d'ailleurs a abordée, mais en tant qu'écrivaine, pas en tant que théoricienne, qui est Marie Cosnet, cette grande figure de Georges Bidault. Georges Bidault, qui est une des grandes figures de l'Algérie française et de l'OAS, a été un grand résistant. On le comprend très bien, c'est que une raison possible de la résistance était le nationalisme français. Donc, il s'opposait à l'invasion des Allemands, quoi.
C'est 14-18.
C'est un bloc nationaliste contre un bloc nationaliste, ouais, quoi.
C'est 14-18 qui recommençait.
Oui, c'est ça. Donc, ceci pour dire que c'est pas uniquement un ressort humaniste qui a pu amener une résistance au nazisme. C'est aussi des ressorts humanistes, nationalistes. C'est-à-dire qu'on est passé d'un nationaliste qui est celui de 89 et de Napoléon, qui est un nationaliste généreux, ouvert sur le monde, qui rêvait que le monde soit républicain, un nationalisme fermé, qui est le nationalisme du XXe siècle, un nationalisme fermé, qui est le nationalisme hongrois aujourd'hui, etc., quoi. Un nationaliste qui a peur de l'autre, quoi. Je rappelle que la Révolution française avait d'abord décrété que toute personne qui, quelle que soit son origine, qui vivait en France et qui partageait, qui signait un contrat, un serment en disant « je partage les valeurs de la République » pouvait être de facto française, obtenait la nationalité française. Bon, les révolutionnaires ont abandonné à ça assez vite pour une raison très simple, c'est qu'ils se sont rendus compte que les monarchies, notamment anglaises, envoyaient en France plein d'espions pour déstabiliser pour la miner de l'intérieur, et qu'ils ont été obligés de stopper ça parce qu'ils allaient être envahis par des Anglais ou autres, monarchistes, espions. Et donc c'est la raison qui est qu'on a resserré les règles de l'obtention de la nationalité française. Mais ça, c'est des raisons, je dirais, conjoncturelles. Mais fondamentalement, le mouvement, le nationalisme républicain est un nationalisme généreux et ouvert au monde. Le nationalisme du XXe siècle est un nationalisme qui va se refermer, qui veut s'homogénéiser dans le cadre d'un État-nation protégé par des frontières. Et c'est ce qui est. Et je crois que c'est Milner qui a pensé ça dans un livre un peu excessif, un peu scandaleux et pas toujours très pertinent à cause de cela, à mes yeux, en tout cas qui n'a pas été lu comme il fallait, qui s'appelle « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Tout un programme. Mais où il a raison, c'est que on peut, à partir de là, avoir un éclairage, une clé de compréhension pourquoi l'Europe, l'Union européenne, l'Europe n'arrive pas à se construire. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit comment c'est une catastrophe. Quoi. L'Europe n'arrive pas à... Et même, elle régresse. Regardez comment on n'arrive pas à traiter la question d'un accord commun sur le plan de relance économique après la Covid. Le plan de relance européen, il n'est toujours pas mis en œuvre. Il y a un échec qui est en train de se dessiner. Et comment l'Europe n'arrive pas à avoir une politique commune par rapport à l'accueil des 20 000 populations déplacées de Moria, et que ça régresse, que Ursula von der Leyen a voulu très généreusement remettre en cause les accords de Dublin, qui sont des accords catastrophiques, à la fois pour les premiers pays concernés, qui sont la Grèce, l'Italie et un peu l'Espagne, et qui sont catastrophiques du point de vue des populations déplacées, des migrants, parce qu'ils sont ce qu'on appelle dublinés. Ils sont en permanence menacés d'être renvoyés dans le pays d'origine qu'ils ont quitté, l'origine où on a inscrit leur... Et donc, Ursula von der Leyen voulait remettre en cause cela. Et l'accord qui a été passé, qui est un compromis désastreux, est à la limite pire que Dublin. Quoi. En tout cas, c'est tragique. C'est d'une tristesse. C'est parce qu'il n'y a pas d'accord. Et pourquoi il n'y a pas d'accord? Parce que l'Europe est une invention du nazisme. C'est la thèse de Milner. Mais que je partage sur un point, c'est une invention des conséquences du nazisme. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une Europe qui est basée sur les nationalistes particuliers. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas d'accord? C'est que c'est des compromis entre nationalismes qui n'arrivent pas à s'entendre, des égoïsmes nationaux. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'Europe échoue à dépasser, à transcender les égoïsmes nationaux fondamentalement. Quoi. Et il n'y a qu'un pays, c'est pour ça que je tiens à souligner l'acte de Ursula von der Leyen et encore plus les positions de Angela Merkel. C'est des positions qui sont ouvertes. Et pourquoi? Parce que l'Allemagne, c'est le seul pays qui ait fait un travail critique sur elle-même profond après le nazisme, qui a fait un travail critique jusqu'au bout sur elle-même. Alors, jusqu'au bout, c'est excessif, parce qu'on ne le fait jamais jusqu'au bout, mais qui a fait un travail critique remarquable sur elle-même, ce que n'ont pas fait les Autrichiens, ce que n'ont pas fait les Français, ce que n'ont pas fait les Belges. Pourquoi? Parce que les Autrichiens, les Français, les Belges, les Hollandais se sont tous considérés comme victimes. Et quand on est dans la position de victime, c'est une position très confortable qui évite de faire une analyse critique sur soi-même, quoi. Alors que les Allemands ont dû faire ce travail sur eux.
Pendant longtemps, pendant des décennies.
Et l'ont fait. Alors, pas à l'Est, à cause du fait que l'Est est passé sur eux. Mais d'où le problème qui est que la réaction de 10% d'extrême droite vient massivement de l'Est. Voilà, c'est ça la conséquence. Alors, Éric Villard, on n'a pas parlé de cela comme ça avec lui. Éric Villard se situe sur un autre plan d'analyse que révèle l'ordre du jour, qui est sur le plan que, d'une analyse marxiste, socio-économique, économique. Qui reste sur le fait que le politique, l'idéologique, le symbolique, c'est pas un marxiste gramscien. Je pense à Gramsci qu'on a célébré récemment pour je ne sais pas quel anniversaire sa mort, 50 ans, bon, je ne sais plus. Et Gramsci qui avait inversé, qui était un marxiste qui pensait que la culture au sens large du terme, c'est-à-dire la production symbolique, donc il englobait l'idéologie. Pour Gramsci, la culture, le symbolique, est une infrastructure. C'est pas simplement une superstructure. Contrairement aux marxistes traditionnels. Je pense aussi aux philosophes de l'école de Francfort. Adorno, Goldman, etc. Eux qui pensent, pour le dire vite, plutôt comme Adorno, qui s'intéressent à l'art, à la production symbolique du monde comme étant une infrastructure de la société et pas simplement une superstructure. Une superstructure, c'est-à-dire une traduction des rapports de production, c'est-à-dire des forces économiques. Éric Villard a tendance à rester sur un marxisme traditionnel, pas gramscien, ce qui est d'ailleurs une contradiction en lui, duquel quand on est au téléphone ça dure une heure parce que on n'est pas d'accord sur ce point là il y a une contradiction chez lui, c'est qu'il ne peut pas croire au bienfait de son travail d'écrivain s'il ne pense pas qu'une production symbolique peut avoir un effet au niveau de l'infrastructure. Je pense qu'il y a une contradiction. Il ne devrait pas être écrivain, il devrait faire autre chose s'il était cohérent jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'Éric Villard pense que le nazisme a été une production du capitalisme à son stade de développement, du capitalisme industriel et notamment du capitalisme allemand. Parce que les grands groupes industriels allemands, les Krupp, les Basf, les Thyssen, les Bayer, qui ont racheté Monsanto, quand vous venez vers la Grasse depuis Trèbes, vous voyez maintenant c'est Bayer, c'est plus Monsanto. C'est-à-dire les mêmes qui vont empoisonner l'humanité à travers Monsanto, qui ont empoisonné les nazis dans les camps de concentration en ayant produit le cyclone B, entre parenthèses. Mais où je pense que Éric a tort, c'est que l'Europe politique n'est pas une nécessité pour le capitalisme mondial aujourd'hui et notamment pour les grands groupes industriels mondiaux allemands. Parce que le cadre européen, c'est devenu un cadre trop petit comme les cadres nationaux. Donc ils n'en ont rien à faire de l'Europe d'une certaine manière. Le capitalisme est mondial, il n'est pas européen aujourd'hui. Et on voit bien les problèmes qu'il y a avec les multinationales qui trouvent toujours à échapper à l'impôt quelque part dans le monde, quoi, ou dans des territoires européens extra-Union européenne, ou même toujours européens d'ailleurs. Je pense au Luxembourg ou à l'Irlande. Voilà, donc le cadre européen n'est pas une contrainte pour l'essor du capitalisme mondial aujourd'hui, y compris du capitalisme industriel allemand mondial. Et restons sur le point de vue qui est le nôtre, je rappelle, qui est le point de vue de la morale, d'une philosophie morale. Donc Nietzsche, premier point, on va creuser cela. Nietzsche démolit à coups de marteau la morale héritée de la Grèce antique. C'est son expression. Hein. Alors, il l'applique à la métaphysique, mais comme pour lui, ce qui est le soubassement de la morale européenne, de la morale occidentale. Donc, il démolit à coups de marteau. C'est un geste de révolte, incontestablement. Donc on est incontestablement dans un mouvement de révolte. Pour Nietzsche, la morale est un problème. C'est un problème. C'est un problème au sens où c'est un obstacle majeur à l'épanouissement de l'homme et de la société. Alors, en quoi c'est un problème ? C'est que la valeur morale, qu'elle soit issue, pour lui, il met ça dans le même paquet de la religion chrétienne, ou qu'elle soit issue de la métaphysique grecque antique. Pour lui, c'est le même problème. Ça s'incarne dans deux figures, Jésus, le Christ, et Socrate, d'un autre côté. Lui, ça va complètement produire ce qu'il appelle, dans une inversion des termes, le nihilisme européen. C'est-à-dire, Nietzsche attaque le nihilisme comme étant le symptôme de la destruction de l'Europe par la morale et la religion. Par la métaphysique grecque et la religion. Alors, en quoi ça produit le nihilisme? Alors là, il s'attaque à Platon, puis il s'attaque au christianisme. Ça va produire un dualisme. C'est la séparation du corps et de l'âme. Vous savez, bon, je ne vais pas redévelopper le platonisme maintenant, mais en gros, pour Platon, je pense au mythe d'Er en particulier, E-R, qui est tout à fait symptomatique de cela. Pour Platon, l'âme est prisonnière du corps, et c'est seulement la mort du corps qui va libérer l'âme, et selon la vie que l'homme a menée, l'âme va s'envoler vers le fond de la terre, c'est-à-dire vers l'enfer, pour le dire vite, ou va s'envoler vers le haut, vers le ciel, vers l'un bien, et promise à une vie éternelle. Donc l'âme est très clairement prisonnière du corps, et donc chez Platon, et l'analyse, la critique de Nietzsche est incontestablement fondée, c'est pas une interprétation fantaisiste de Platon, cette séparation du corps et de l'âme, pour lui, pose problème. Parce qu'elle repose, elle fait écho à une autre séparation, celle entre le monde sensible, c'est le monde terrestre, celui dont on fait l'expérience par les sens, la vue, le toucher, l'odorat, l'expérience du corps dans le monde, quoi. Et le monde suprasensible. Le monde suprasensible, c'est le monde qui est dans le ciel, qui est le monde des idées, qui est un monde qui ne se voit pas, qui est un monde invisible. D'ailleurs, métaphysique, le mot métaphysique traduit cela. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la physique, qu'analyse en particulier Aristote, la physique. La physique, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle aujourd'hui la science physique. Hein. Physique en grec, c'est le mot phusos. Phusos, qui veut dire la nature. Fondamentalement, c'est la nature, le monde naturel, le monde sensible, si vous voulez. Physique, c'est le monde sensible. Donc, on s'intéresse au monde sensible, c'est par l'expérience, par l'observation, qui vient des sens. Et puis, après le monde sensible, il y a le monde suprasensible, qui est invisible, qui est le monde des idées, le monde de l'esprit, qu'on va appréhender à travers cette discipline de l'esprit qui est la métaphysique. Métaphysique, en grec, voulant dire tout simplement ce qui vient après. Ce qui vient après. Méta, c'est une préposition qui veut dire après. Ce monde suprasensible, qui est le monde des âmes, qui est le monde des idées, ça va être aussi très vite le monde de Dieu. Donc, le christianisme est de ce point de vue une continuité évidente du platonisme. Et à travers notamment les néoplatoniciens, je pense notamment à Plotin, ce grand néoplatonicien, qui est directement... Non, il est contemporain du christianisme, il reste dans le monde grec, il n'est pas chrétien, mais le christianisme va directement s'inspirer de Plotin. Il a une influence considérable. Les pères de l'Église, les premiers pères de l'Église qui sont contemporains, vont connaître Plotin, c'est pour eux essentiel. Je pense à Augustin, je pense à Grégoire de Nazianze, enfin tous les grandes figures de la patristique, c'est-à-dire des pères de l'Église, des pères fondateurs de la doctrine et de la philosophie chrétienne. Je pense au dernier grand néoplatonicien qui est le plus tardif, qui est un type extraordinaire qui s'appelle Damasius, ou Damasios, comme vous voulez. Vous mettez un O si vous restez dans la langue grecque, vous mettez un U si vous latinisez son nom. Damasius, qui veut dire tout simplement de Damas. Il vient de Damas, de Syrie. Mais il va vivre dans l'Empire romain, et comme il est resté complètement grec, il va faire l'objet de persécutions quand l'Empire romain est devenu chrétien. Et donc il va repartir en Orient, au Moyen-Orient, et après on perd sa trace. Mais Damasius, c'est le dernier des grands néoplatoniciens qui a écrit ce livre qui s'appelle en français « Des premiers principes ». Des premiers, qu'on a traduit par « Des premiers principes », qui correspond directement à la traduction des termes grecs « peri archon ». Arcos en grec, c'est non pas un arc, c'est un principe premier. Et donc, il construit le monde selon une hiérarchie des principes, si vous voulez. Bon, je ne veux pas développer ça maintenant, simplement pour dire que pour Damasius, qui s'inspire du Parménide, notamment de Platon, le premier principe, c'est quelque chose qui n'est pas connaissable par l'homme, qui est inconnaissable, c'est l'un bien. Le un, c'est l'unité du monde, trait d'union, bien, c'est le bien absolu. L'un bien. Et de là va émaner par ce qu'il appelle pro-odos en grec, qui a donné le mot procession. Et c'est pas hasard si le christianisme récupère complètement le mot procession. Dire pro-odos en grec. C'est ce processus d'émanation successive qui procède par division, si vous voulez. C'est-à-dire de là naît le 2, la diade, de chaque diade naît la triade, le 3, chaque triade, et le monde se multiplie à l'infini jusqu'à ce qui est le plus bas degré de l'être, qui est la matière. La matière qui est par définition chaotique, parce que la plus éloignée des principes qui mettent en forme, qui mettent une forme, c'est-à-dire. Et le mot forme, je rappelle en grec, c'est eidos, E-I-D-O-S, qui donne le mot idée. Une idée, c'est une mise en forme. Bref. Voilà, donc Damasius pense. Alors, où la critique de Nietzsche de ce dualisme est à revoir en partie, c'est que sa critique du dualisme platonicien, de la métaphysique grecque, disons, elle est un peu quand même réductrice. Elle est commode, elle n'est pas fausse en partie chez Platon, Platon, j'ai cité le mythe d'Er qui en est l'illustration, mais quand on regarde en particulier Damasius qui est allé le plus loin dans la pensée platonicienne, dans le Parménide en particulier, et qui est allé le plus loin dans les impasses, dans les apories, comme on dit en grec, aporos, aporie. Il n'y a plus de passage, il n'y a plus de chenal de la pensée grecque. Chez Damasius, c'est clair, il n'y a pas simplement d'un côté le monde des idées, de l'autre côté le monde terrestre du sensible. Au sens où c'est progressif. Si vous voulez, on passe du noir au blanc, ou du blanc au noir, si on veut cette image approximative, par toutes les nuances de gris. Vous voyez ? Et il n'y a pas de frontière séparatrice. Et ce qui veut dire que chez Damasius, mais on peut prétendre ça aussi chez Platon, dans certains textes de Platon, c'est en tout cas la thèse de ce grand philosophe qui est hélas mort, qui s'appelait Guy Lardereau, qui pensait fondamentalement que la philosophie de Platon était matérialiste. C'était un matérialisme. Ce n'était pas un idéalisme. Donc vous voyez, je pense que la critique de Nietzsche heurte au fait qu'elle manque cette subtilité de la pensée platonicienne et surtout néoplatonicienne qui est qu'il n'y a pas une frontière claire, il n'y a pas le blanc d'un côté et le noir. Il n'y a pas deux mondes aussi séparés. Alors c'est vrai que par contre dans le christianisme les deux mondes sont séparés et c'est clair chez Augustin. Augustin, c'est une réplique directe du néoplatonisme, de la métaphysique grecque. Chez Augustin, vous avez le monde terrestre, la cité terrestre et la cité céleste. Et que ces deux cités sont séparées incontestablement. Sauf que, même chez Augustin, c'est pas pour autant qu'il n'y ait pas de lien entre les deux cités. Et ça se traduit par le fait que chez Augustin, il y a des traces, il y a des reflets, il y a des rayons de la cité terrestre dans la cité humaine. Et pour une raison simple, c'est que si, dans l'optique chrétienne, les deux cités étaient complètement séparées, alors il ne pourrait y avoir aucune, mais alors strictement aucune, appréhension, connaissance possible de la cité céleste. Ça ne serait pas possible.
Oui.
Si c'était complètement séparé. Ce qui veut dire que l'homme sur Terre, à travers son âme, a une connaissance, une certaine connaissance de la cité qui n'est pas visible, la cité céleste. Donc vous voyez, même si chez Augustin, on voit cette séparation entre les deux cités, la séparation, elle n'est pas si radicale que Nietzsche le dit, quoi. Nietzsche n'a pas pensé la circulation, il reste sur quelque chose qui est duel, un dualisme. Il réduit la métaphysique grecque et la métaphysique chrétienne à un dualisme absolu, sans penser, ce qui est la question au fond la plus importante et la plus intéressante, si, comment il peut y avoir des circulations entre eux. De Nietzsche, mais bien sûr, parce que on peut voir comment Nietzsche reste au fond. Il est tout contre. Il est tout contre Socrate et Jésus. Il est tout contre dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois, il s'oppose et en même temps, il est tellement imprégné, tellement proche, tellement fasciné que il n'a pas rompu. Nietzsche, Zarathoustra, c'est Jésus et c'est Nietzsche et c'est Jésus, enfin par rapport à plein d'aspects. Donc effectivement, il y a de la mauvaise foi en ce sens. C'est qu'il refuse sa proximité. Il refuse ce qu'il doit et ce qu'il garde de l'héritage christo-platonicien, chrétien-platonicien. Nietzsche était un philologue d'abord, il a commencé par être philologue et le seul boulot qu'il ait réellement exercé, c'est un boulot de prof de philologie à l'université de Bâle, qu'il n'a pas gardé longtemps, après il a démissionné. Et la philologie, contrairement à la philosophie, la philologie, c'est l'étude, ce qui se veut scientifique, des textes anciens. C'est toute l'effort scientifique qui consiste à établir, c'est-à-dire à retrouver le plus possible la version originale des textes anciens qui nous parviennent de façon fragmentaire souvent, ou qui nous parviennent à travers des manuscrits plus tardifs avec des erreurs. Donc le philologue, c'est celui qui étudie les textes à travers les différents manuscrits, à travers les premières impressions, les premières éditions imprimées, pour tenter de trouver le plus possible la version première, originale des textes. Donc la philologie, c'est la science des textes anciens. Voilà. Donc c'était le boulot de Nietzsche, donc il s'intéressait aux textes grecs, d'où son intérêt pour les pré-socratiques, mais pour lesquels on a alors plus que des traces, enfin que des traces, quoi. Alors, beaucoup plus que pour ce qui arrive après Platon et ça. Mais en Allemagne, contrairement en France, il n'y a pas de séparation historiquement, pour des raisons liées à l'organisation de l'université. Il n'y a pas cette séparation entre les philologues et les philosophes. C'est-à-dire que les philosophes peuvent être philologues et les philologues peuvent être philosophes en allemand. Alors qu'en France, pour des raisons historiques de l'organisation de l'université, ça a été complètement séparé. Donc en France, il y a les philologues d'un côté qui ne pensent pas et les philosophes qui pensent, mais en connaissant pas les versions les plus récentes et les plus abouties des textes anciens sur lesquels ils travaillent. Ce dualisme, qui est très réducteur dans la vision de Nietzsche, qui peut être de mauvaise foi, pour lui, fait qu'au fond, le monde des idées et donc des valeurs morales, est un monde, pour utiliser une expression contemporaine qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est une image, c'est un monde hors sol. C'est complètement hors sol. Donc, ce n'est pas solide, ce n'est pas ancré. Ce n'est pas ancré, et que c'est un monde qui ne va être que arbitraire, conventionnel et normatif. Donc la pensée morale, qu'elle soit grecque ou chrétienne, qui vient de l'éther, c'est un monde qui n'a pas de consistance et qui ne peut produire que des normes conventionnelles. D'où le fait que toutes les valeurs morales sont arbitraires, sont des normes, et viennent contraindre l'individu dans son corps. Et donc dans son désir, et donc dans sa libido, dans son désir, dans son élan vital, dans sa puissance. Vous voyez le problème? C'est là, donc ça crée un individu servile, dégénéré, qui s'éloigne de la grande aristocratie. Vous voyez comment Nietzsche, à partir de là, construit ce qu'il appelle le nihilisme, c'est-à-dire la décadence européenne. Et ça, alors, du point de vue, non pas d'une critique métaphysique de la Grèce antique et du christianisme, mais du point de vue d'une approche anthropologique ou sociologique ou psychosociologique. La critique de Nietzsche a une puissance salutaire, déterminante. C'est-à-dire que Nietzsche opère d'une certaine manière le même mouvement critique qu'opérera quelque temps après Freud par rapport à son analyse des dégâts de la société bourgeoise viennoise catholique, qu'il montre comme étant la matrice de toutes les névroses, voire les psychoses de l'individu. C'est le même mouvement, d'une certaine manière, que Freud opère sur un autre registre, à partir d'un autre point de vue au sens littéral du terme, c'est-à-dire de s'être placé à un autre endroit. Que Freud opère que la critique que je viens d'évoquer de Nietzsche. C'est pour cela que la convergence, notamment en France, chez les philosophes, les intellectuels français, la convergence entre Nietzsche et Freud a été très importante, a été féconde, a été déterminante. Je pense à des gens comme Georges Bataille en particulier, quoi. Cette convergence entre Freud, les apports de la psychanalyse, et Nietzsche dans la critique de ce qui peut être appelé à partir de là, de façon non abusive, un ordre moral qui correspond à un ordre politique, c'est un ordre contraignant, fait de normes arbitraires. On peut comprendre comment ça a été fécond dans la pensée européenne et notamment française, allant, disons, de Bataille jusqu'à des gens plus tardifs comme Deleuze, par exemple, en France. Deleuze et Guattari. Et Deleuze, qui, c'est pas hasard, on retrouve aussi le mouvement de Freud et on retrouve le mouvement de Nietzsche. Deleuze s'intéresse avec Guattari, qui est un psychiatre, et ils ont écrit les livres fondamentaux ensemble, je pense à Mille plateaux. L'analyse, elle est la même que Nietzsche, elle est profondément nietzschienne, c'est qu'en gros, cet ordre moral et politique crée un désordre psychique, crée la folie. Crée la folie au sens psychiatrique du terme. Crée, si je le traduis dans les termes de Nietzsche, crée la maladie. Et contre cela, Nietzsche va opposer la grande santé. C'est-à-dire que cet ordre moral et religieux et politique qui induit des normes contraignantes rendent les gens malades et faut s'en affranchir pour retrouver la grande santé. La grande santé, c'est quoi? C'est l'individu libéré des contraintes qui pèsent sur son corps et sur son âme réunifiées, les contraintes qui font qu'il est bridé, il s'auto-bride, oui, il est bridé par l'extérieur, mais par l'intériorisation qu'il fait de l'extérieur, il est bridé par ses normes arbitraires qui l'empêchent de déployer la puissance qu'il contient, l'élan vital qu'il contient. C'est-à-dire que la maladie, c'est une brisure de l'élan vital. Et la grande santé, c'est ce qui va permettre, en s'affranchissant par la critique de ce carcan, de cet ordre moral et religieux, si vous voulez, c'est ce qui va permettre de c'est à libre cours à cette volonté de puissance, cette volonté de réalisation qui va aboutir à la production d'un nouvel homme qu'il dit, qu'on traduit parfois en français, c'est un problème de surhomme. Mais le mot est ambigu. Parce que surhomme, dans le français courant, et la critique est justifiée, on l'entend par. On l'associe évidemment à ce que les nazis ont fait du surhomme, c'est-à-dire l'arien, la race supérieure, le surhomme, qui est au-dessus des autres. Oui, mais en même temps, on peut le dire, c'est vrai en partie, c'est-à-dire qu'il y a un usage très dangereux de Nietzsche. Dans lequel beaucoup sont tombés, parfois innocemment. En même temps, il y a eu un usage très dangereux de Marx. Et on peut comparer, on peut dire que l'usage très dangereux de Marx, c'est le totalitarisme du stalinisme, de la Chine, de la révolution culturelle, de Pol Pot, etc. On peut dire la même chose, quoi. Mais comme disent ces dictons anglais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, le problème, c'est les traductions. C'est-à-dire qu'il faut l'entendre dans le sens allemand qui n'a pas cette connotation française, une Dermanche. Voilà. Voilà.
Oui, mais c'est pas sûr. Sûr, c'est auf.
Voilà. Voilà. Alors que français.
C'est l'idée de dépassement.
Voilà, tout à fait. Ce qui rétablit le sens que donne, sans ambiguïté, le sens que donne à cette formule Nietzsche, sans l'ambiguïté que le français donne à surhomme. C'est-à-dire qu'en gros.
Übermensch.
Übermensch, oui. Mais ça n'a pas les mêmes résonances dans l'oreille allemande. C'est ça le problème. Et c'est tous les malentendus des traductions mal contrôlées et, à mon avis, intentionnellement, en français, de Freud, de Nietzsche, d'Heidegger. Enfin, c'est le gros problème de la traduction en France que Georges Arthur Goldschmidt a parfaitement analysé. C'est magnifique ce qu'il dit. Entendu à cause des traductions. Oui, c'est vrai. Mais...
Alors maintenant, c'est pas. Oui, voilà, on tombe vite dans le super-homme.
Oui.
Et ce qui n'est,
oui.
pas, ce qui n'est pas.
Le super-homme est surtout l'homme dominateur. Ouais. L'homme qui écrase les autres, qui est sur les autres.
Nietzsche ne parle jamais de sous-homme.
Si vous voulez, c'est Paul Audy qui avait bien compris comment aborder cela. Il faut associer la notion de surhomme au sens de Nietzsche, au sens fort du terme, à la notion de survie. Le mot survie en français contient les mêmes ambiguïtés, mais ça a une connotation différente. La survie, c'est pas la supervie. Pour le coup, en français, la survie, c'est la vie minimale, quoi. C'est ne pas mourir, quoi. Et c'est intéressant parce qu'on voit la même déviation en français pour survie que pour surhomme, quoi. C'est pas dans le même sens, quoi. Alors que survie, pour Nietzsche, c'est une vie qui est dans épanouie, une vie qui est dans l'élan vital, une vie qui est l'aboutissement de l'élan vital, quoi. La survie. Ce qui est au-dessus de la vie, quoi. De la vie misérable, de la vie médiocre, de la vie de l'homme décadent, quoi. La vie de l'homme qui est dans le carcan, qui étouffe dans le carcan de la morale et de la religion. Voilà. La morale fondée sur la métaphysique grecque ou chrétienne crée un dualisme qui sépare le monde terrestre du monde céleste, qui sépare le corps de l'âme, qui sépare le bien du mal. Voilà, pour Nietzsche. Voilà ce qu'il dit. Alors, ce qu'il dit, c'est là, il va dire que c'est des faux semblants, il a tout un texte. Mais je crois que dans un des textes que je vous ai donné, qu'on lira, il l'aborde. Ça. Donc, t'es trop pressé. Il me faut ajouter cela. Donc, pour Nietzsche, il s'agit de démolir à coup de marteau pour reconstruire. Pour reconstruire ce champ libre qui est la promesse. Qui aduit la volonté de puissance, qui est la promesse de grande santé. Voilà. Dernier point qu'il me faut ajouter pour aujourd'hui, ah oui, ça va être l'heure, c'est le fait que Nietzsche tire les conséquences de ce qui se joue dans son époque, qu'on peut formuler selon cette formule ultra célèbre et mal comprise de la mort de Dieu. C'est-à-dire que la critique de Nietzsche de tout ce que je viens de dire ne s'entend que parce que il y a ce postulat de départ qui est la mort de Dieu. Alors Dieu étant dans le christianisme Dieu, c'est cette puissance divine créatrice du monde, mais qu'on peut retrouver dans la métaphysique grecque athée, païenne, qui est ce que Damasius appelle le premier principe. D'accord ? D'où émane tout le processus de multiplication des étangs, c'est-à-dire de ceux qui existent, des êtres, jusqu'à la matière. L'homme étant intermédiaire entre ce haut et ce bas. D'accord ? Donc, c'est une remise en cause du premier principe qui organise toute la pyramide et qui organise le système des valeurs morales l'ordre moral, l'ordre politique, l'ordre de la société, l'ordre du monde, la cosmologie, la cosmogonie, d'accord ? Donc, Dieu est mort. Cette formule lui est inspirée par les frères Karamazov de Dostoïevski. Alors, Dostoïevski ne dit pas « Dieu est mort, tout est permis ». Ce n'est pas une phrase. On a résumé ça. C'est « Si Dieu n'existe pas », et alors, c'est tout un développement.
Alors tout est permis.
Non, c'est pas direct. C'est pas direct.
C'est alors, c'est à la fin.
Oui, mais c'est à la fin, voilà. Donc, qu'on a condensé, que Nietzsche a condensé, « Si Dieu n'existe pas, si Dieu est mort, tout est permis ».
Si Dieu n'existe pas...
La mentalité de l'homme, c'est une conséquence de cette métaphysique grecque et chrétienne, quoi. Donc c'est en main en cause le dispositif de cette métaphysique. Donc si Dieu est mort, tout est permis, on peut le résumer comme ça. Ce qu'a Michel Foucault, qui était très nietzschéen au fond, a développé dans ses textes, quoi. Il a montré la rupture, qui n'est pas simplement nietzschéenne, qu'on retrouve chez Dostoïevski, la rupture métaphysique de l'Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est là qu'il y a cette rupture, qui est une remise en cause de l'idée que le monde et l'homme seraient gouvernés par une transcendance qui organiserait les choses et l'ordre du monde, l'ordre de la morale, l'ordre qui dicte les conduites humaines, si vous voulez. On va être obligé d'arrêter là. J'ajouterai, parce qu'on va repartir de là la prochaine fois. Ceci se retrouve chez Mallarmé et on abordera un beau poème de Mallarmé qui dit cela. J'ajouterai en dernier ce point. Pour sauver la métaphysique. Pour sauver l'hypothèse de Dieu, entendez-le dans un sens neutre. Après, le sens neutre, chacun peut en faire ce qu'il veut en fonction de ses propres opinions et croyances et autres. On peut supposer aussi une autre hypothèse, que Dieu, c'est pas qu'il soit mort, c'est pas qu'il n'existe pas, que Dieu est caché. Que Dieu est caché. Et là, ça ouvre une perspective tout à fait autre, qui est passionnante, la question d'un Dieu caché. Ça ouvre la pensée la plus intéressante du judaïsme, qui est le Tzimtzum, c'est-à-dire le Dieu contracté, le retrait de Dieu. Que Dieu s'est retiré pour permettre le déploiement du monde, et pour permettre la liberté de l'homme. Et ça, je reviens à mes dadas favoris, ça ouvre le champ d'une certaine métaphysique occidentale chrétienne, mais qui est tout à fait autre, ça libère le champ pour penser à partir de Pascal et de Port-Royal. Parce que Pascal et Port-Royal pense à partir de Dieu caché. Et ça libère un espace d'un certain marxisme. Il y a un grand marxiste qui appartenait à la même école d'Adorno, qui s'appelle Saint Goldman, qui a écrit ce livre qui est déterminant, Le Dieu caché, qu'il pense à partir notamment de Pascal. Et ce qui est formidable, c'est que l'idée de Dieu caché réconcilie une certaine métaphysique et la possibilité d'un certain métaphysique. C'est ce qui m'a fait comprendre la formule énigmatique de Benny Levy, qui était revenu, enfin qui avait découvert le judaïsme alors qu'il était complètement athée, qui a dit le meilleur chemin pour aller au judaïsme, c'est l'athéisme.
Oui.
L'athéisme. C'est Goldman. Mais c'est Goldman. Mais c'est, ça fait partie de la même mouvance qu'Adorno. Bon, il faut. Si, il y a un rapport, il y a une nécessité. On va creuser ça la prochaine fois. Mais il y a une nécessité. La nécessité, c'est que tu appelles ça Dieu ou un premier principe. Si tu n'as plus de pierre angulaire, de principe, les notions repères de bien et mal ne peuvent plus exister. Au nom de quoi? S'il n'y a pas un premier principe, tu peux l'appeler trivialement si tu n'as pas de boussole. Si tu n'as pas de boussole, tu n'as plus d'orientation.